Bien, je vous remercie d'être là. Donc, je vous avais laissé dans le feuilleton aux négociations sur l'application de la déclaration de principe, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'accord d'intérim ou intérimaire. Et donc, nous redémarrons en février 1994, nous avons fait déjà 2 ans depuis le début du cours, ce qui est un grand pas en avant, incontestablement. Et donc, dans cette phase des négociations, les militaires israéliens ont joué un rôle essentiel. Ils veulent mettre fin aux ambiguïtés constructives de la déclaration de principe pour obtenir un inventaire détaillé et minutieux des conditions de sécurité indispensables pour Israël. On les soupçonne par là de vouloir poser des obstacles, à l'accomplissement du processus de paix. Et là, il y a entre l'équipe de Shimon Peres venue des affaires étrangères et l'équipe des experts militaires une certaine divergence d'appréciation. Mais il faut quand même limiter cette divergence parce qu'il y a consensus sur l'essentiel. Mais tout est dans l'application, dans les détails. La simple question des patrouilles israéliennes sur les voies de communication, avec la profondeur de leur champ d'intervention, met en cause tout simplement la question de l'autonomie, puisque si on accorde un droit de suite relativement important, il n'y a aucun territoire palestinien qui pourrait être autonome. Autre question essentielle qui pose la nature de l'autonomie, le traitement des Palestiniens sur le point de passage avec la Jordanie, ce qu'on appelle le pont Allenby, et le passage entre la bande de Gaza et l'Égypte, le passage de Rafah. Ça définira tout simplement s'il y a une vraie amélioration ou non du sort des Palestiniens. Actuellement, ils sont particulièrement maltraités avec de longues attentes, des fouilles au corps, des interrogatoires. Donc il faut pouvoir changer les choses sans remettre en cause la sécurité israélienne. Mais à ces questions de fond s'accompagne constamment d'une question de symbole, c'est-à-dire la place des indices de souveraineté, comme par exemple les drapeaux. Alors, on peut dire que dans cette négociation longue et difficile s'opposent les impératifs de la sécurité israélienne et ceux de la dignité palestinienne. Peres s'indigne d'avoir à passer son temps à traiter des choses aussi triviales et accuse ses interlocuteurs de multiplier les chicaneries alors que les exigences viennent de son propre camp. Alors, en même temps, comme je l'ai dit, les militaires tendent à s'appuyer sur Yitzhak Rabin, qui est l'homme des militaires, ou les militaires sont ses hommes, plus exactement. Enfin, en tout cas, il est l'expression même de l'armée israélienne, tandis que Peres est plutôt de l'école des affaires étrangères. Quant à Arafat, ce qui complique les choses, il se charge de faire comprendre que c'est lui qui commande, donc qui a le pouvoir de décision, quitte à désavouer ses négociateurs ou à faire des choix définitifs sans les consulter. Donc, on a, comme d'habitude, des réunions régulières entre les équipes de négociation et puis des entretiens en tête-à-tête entre Shimon Peres et Yasser Arafat. Alors, de façon un peu chaotique, on arrive ainsi à un accord signé au Caire le 9 février 1994, accord partiel qui n'est pas encore l'accord d'intérim lui-même, qui n'est simplement qu'une étape vers l'accord intérimaire, Donc c'est un accord signé par Arafat et Peres en présence de Moubarak. Mais cet accord est essentiel car il va régir pour de nombreuses années les relations entre Israéliens et Palestiniens. Après avoir réaffirmé qu'Israël demeure responsable pour la période intérimaire de la sécurité extérieure, on fixe de façon extrêmement minutieuse les conditions de passage des frontières. Alors, il faut que je vous donne des extraits du texte, même si c'est un peu long, parce que ça montre les degrés de complexité ou de détail auxquels on arrive dès qu'on quitte les ambiguïtés constructives. Je cite. Les deux parties sont déterminées à faire tout leur possible afin de préserver la dignité des personnes traversant les passages frontaliers. Dans ce but, les mécanismes créés seront fortement basés sur les procédures brèves et modernes. Il y aura à chaque passage frontalier un terminal consistant en deux ailes. La première aile servira les résidents palestiniens de la bande de Gaza et les visiteurs de ces régions. Ce sera donc appelé l'aile palestinienne. La deuxième aile servira les Israéliens et les autres. Ce sera l'aile israélienne. Il y aura une zone de contrôle israélienne fermée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous. Alors, première conséquence de ce système, la création d'une classe palestinienne privilégiée, je cite, « des arrangements spéciaux seront appliqués aux personnages de marque VIP empruntant l'aile palestinienne ». Et c'est un peu de ce texte que va naître la sous-catégorie des VIP palestiniens. Les conditions de transit sont fixées de façon détaillée. Pour chaque passage, il y aura un directeur général israélien responsable de l'administration et de la sécurité et deux adjoints, l'un palestinien pour l'aile palestinienne, l'autre israélien pour l'aile israélienne. À l'entrée de l'aile palestinienne, il y aura un policier palestinien et le drapeau palestinien. Je cite, « Avant d'entrer dans l'aile palestinienne, les passagers identifieront leurs bagages personnels qui seront placés sur un tapis roulant. Chaque partie pourra inspecter ses bagages à l'intérieur de son propre espace de contrôle, utilisant son propre personnel, et s'il le faut, pourra ouvrir ses bagages afin de les inspecter en présence du propriétaire et d'un policier palestinien. Le contrôle israélien devra être le moins visible possible. » Je cite, « Les personnes entrant dans l'aile palestinienne passeront sous un porche magnétique. Un policier israélien et un policier palestinien seront postés de chaque côté de ce porche. En cas de suspicion, chaque partie pourra demander qu'une inspection physique soit menée dans des cabines d'inspection jouxtant le porche. Les passagers seront inspectés par un policier palestinien en présence d'un policier israélien. Les objets personnels des accompagnants pourront être aussi inspectés à cet endroit. Ensuite, les passagers seront divisés en trois files. La première file sera utilisée par les résidents palestiniens de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho. Ces passagers iront à un guichet palestinien où leurs documents et leur identité seront contrôlés. Leurs documents seront contrôlés par un agent israélien qui contrôlera aussi leur identité indirectement de manière invisible. La deuxième file servira les autres résidents palestiniens de Cisjordanie. Ces passagers iront d'abord à un guichet palestinien où leurs documents et leur identité seront contrôlés. Ils auront aussi un guichet israélien où leurs documents et leur identité seront contrôlés. Les deux guichets seront séparés par une glace teintée et une porte tournante. La troisième file concerne les visiteurs qui iront d'abord au guichet israélien, puis au guichet palestinien. En cas de suspicion, chaque partie pourra interroger le passager dans sa zone de contrôle fermée. Chaque partie aura l'autorité de refuser l'entrée de personnes qui ne sont pas résidentes de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Autre conséquence fondamentale de l'accord, c'est le paragraphe suivant, le droit des Israéliens de déterminer qui est résident et qui ne l'est pas. Pour l'application de cet accord, les résidents de la bande de Gaza et de la Cisjordanie signifieront les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord, sont enregistrées en tant que résidents de ces régions dans le registre de la population conservé par le gouvernement militaire de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que les personnes qui auront subséquemment obtenu une résidence permanente dans ces régions avec l'approbation d'Israël, conformément à cet accord. Après les contrôles, on donnera aux passagers une fiche de couleur, selon ses catégories, qui sera collectée à la sortie par des fonctionnaires israéliens et palestiniens. Israël conserve le droit d'autoriser ou non les visiteurs palestiniens à rester plus longtemps. je cite, « Les visiteurs de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho pourront rester dans ces régions pour une période ne dépassant pas 3 mois, conformément au permis accordé par l'autorité palestinienne et approuvé par Israël. L'autorité palestinienne pourra proroger cette période de 3 mois et informera Israël de cette prolongation. Toute nouvelle prolongation requiert l'approbation d'Israël. » Donc, si vous retraduisez le langage bureaucratique, Israël a le droit de veto sur toute entrée de Palestiniens de l'extérieur dans les territoires dits autonomes. On fixe les grands traits de la zone de Jéricho et de la bande de Gaza. Dans cette dernière, les colonies et la zone frontalière avec l'Égypte resteront sous autorité israélienne, ce qui fait à peu près le tiers de la bande de Gaza. Il y aura une zone dite jaune où Israël conservera la responsabilité de la sécurité et l'autorité palestinienne des affaires civiles. Sur les routes d'accès aux colonies, les autorités israéliennes auront tous les pouvoirs et responsabilités nécessaires dans le but de mener une activité indépendante de sécurité, y compris par des patrouilles israéliennes. Il y aura aussi des patrouilles conjointes. Les contours définitifs de la zone de Jéricho ne sont pas encore fixés. Les 3 sites religieux alentour, la mosquée du Nabi Moussa, le monastère Saint-Jean-Baptiste et le monastère de la Quarantaine, dont les Palestiniens demandaient l'intégration, ne seront pas inclus dans l'enclave. Des corridors leur permettant l'accès à ces sites sont en revanche acceptés à l'occasion des fêtes religieuses chrétiennes et musulmanes. Un 4e corridor est prévu pour relier Jéricho aux berges de la mer Morte où un site touristico-industriel commun devrait être développé. Alors Shimon Peres se félicite de cet accord qui donne aux Israéliens la libération de la nécessité d'exercer le pouvoir sur un autre peuple, la libération de la nécessité de régenter la vie d'un autre peuple, mais une lecture réaliste du texte montre que l'on en est loin. Le contrôle de la sécurité extérieure implique la poursuite par d'autres moyens du contrôle de la population palestinienne. De fait, si l'accord est accueilli avec satisfaction en Israël, il est reçu avec scepticisme et morosité du côté palestinien, alors que Bill Clinton salue cette étape importante. Au Liban, le cher Nasrallah, le chef du Hezbollah, appelle à l'extermination de la direction palestinienne. Je cite « Nous exhortons le peuple palestinien à accélérer sa révolution, à se soulever et à œuvrer avec sérieux pour renverser sa direction traîtresse. Nous l'exhortons à exterminer cette direction traîtresse et sioniste qui est représentée par son noir symbole Yasser Arafat. » Fin de citation. Alors, il reste à négocier la suite des autres éléments de l'accord Gaza-Jéricho, toujours avec la même minutie dans les détails. Les pourparlers reprennent à Taba à la mi-février 1994. On commence à travailler sur les modalités du futur redéploiement de l'armée israélienne. Le point d'achoppement de la discussion est les effectifs de la future police palestinienne ainsi que son armement. Les Israéliens voudraient la limiter à 6 000 hommes, tandis que l'OLP en demande 10 000. Ce qui préoccupe Israël est moins la capacité de cette force sur le terrain que le fait qu'elle serait surtout composée d'éléments venus de la diaspora qui viendront avec leurs familles, donc ce qui va automatiquement augmenter la population palestinienne des territoires. Dans l'hypothèse de 10 000 policiers, cela signifierait l'entrée de 25 000 personnes dans les territoires. Or, Israël veut limiter au maximum le retour des Palestiniens, au moins durant la période intérimaire. Au contraire, Arafat veut organiser le plus grand nombre possible de retours de vétérans de la lutte palestinienne. Ces hommes plus très jeunes seront temporairement des policiers, puis partiront à la retraite et seront remplacés par des militants recrutés sur place. Ainsi, en voulant contourner l'interdiction israélienne du retour, Arafat privilégie une nouvelle fois l'aspect politique en négligeant les conséquences négatives sur l'efficacité de la force palestinienne. En fait, c'est pratiquement des pré-retraités que Arafat veut recruter massivement dans sa force de police. Néanmoins, signe encourageant, l'armée israélienne commence à déménager le matériel et les équipements des secteurs qu'elle doit évacuer lors du redéploiement. Plus on se rapproche de la fin février, plus le discours devient optimiste. On évoque une proche finalisation de l'accord qui serait immédiatement mis en application, mais évidemment, c'est sans tenir compte d'irruption d'éléments extérieurs à la négociation. Le niveau de violence reste très fort dans les territoires occupés. Dans la bande de Gaza, on n'espère plus dans un retrait israélien analogue à celui de 1957. La baisse du niveau de vie est considérable sur plusieurs années et l'on paye aussi le prix de la fermeture par les Israéliens du réseau éducatif. Le soulèvement s'est transformé en anarchie. Les éléments armés issus de la militarisation de l'intifada se constituent en bandes plus ou moins délinquantes, en particulier ceux qui sont appelés les faucons du Fatah. La décomposition est moins avancée dans les groupes islamistes les plus disciplinés. L'armée israélienne continue sa traque des personnes recherchées, privilégiant les islamistes et utilisant une démarche que l'on peut assimiler à des assassinats ciblés. Entre le 13 septembre et le 30 décembre 1993, 30 Palestiniens ont ainsi trouvé la mort dans la bande de Gaza. On continue aussi à tuer des collaborateurs d'Israël ou des gens considérés comme tels, en dépit des appels de Tunis à mettre fin à ces pratiques. Le ravitaillement en armes à feu et en munitions vient surtout d'Israël, par le biais du milieu israélien, les truands israéliens. Ce qu'il faut dire, de façon générale, c'est entre les milieux de la délinquance israéliens et les délinquants palestiniens, il y a toujours eu une excellente entente, en particulier dans les différents trafics de drogue, d'armes, etc., qui sont dans les deux sociétés. On échange ainsi de la drogue contre de l'armement, en particulier aussi avec des militaires israéliens qui vendent tout simplement leurs armements aux Palestiniens. Arafat accuse même l'armée israélienne de comploter ainsi contre la future autonomie. On peut pour le moins accuser le gouvernement militaire de laxisme dans ce domaine. L'anarchie et les mouvements islamistes affaibliraient Arafat dans le grand marchandage des négociations. En Cisjordanie, on ne retrouve pas le même niveau d'anarchie et de décomposition, mais les violences sont constantes entre les colons et la population arabe. En dehors des représailles organisées après chaque attentat contre les colons, il y a la volonté proclamée des mouvements et organisations de colons de mettre en échec l'accord du 13 septembre en lançant une intifada juive. Pourtant, le gouvernement rabbin a maintenu les exemptions fiscales et les nombreux financements en faveur des colons. L'arrêt de la colonisation politique reste essentiellement du domaine de la rhétorique. Les planificateurs israéliens envisagent la constitution de grands blocs de colonisation, aboutissant à l'annexion de larges parts de la Cisjordanie. La sécurité des colonies passe par la construction de routes de contournement des agglomérations arabes et donc par la confiscation de nouvelles terres. Pour pouvoir conserver les meilleures cartes possibles pour la négociation finale, Rabin a même refusé de financer le rapatriement de la petite fraction des colons qui a exprimé la volonté de quitter les territoires occupés. Il ne veut pas créer de précédent, même pour les colonies dont il envisage l'évacuation lors du règlement définitif. Sur ce sujet, le consensus est large pour l'ensemble des décideurs israéliens. Le 19 février, une femme enceinte de 5 mois appartenant à la colonie d'Ariel est tuée dans un attentat revendiqué par le Hamas, et l'armée israélienne met sous couvre-feu les agglomérations arabes voisines afin de les protéger des attaques des colons, tandis que l'OLP condamne l'attentat. La tension est particulièrement forte à Hébron, autour du tombeau des patriarches, devenu l'enjeu des passions nationales et religieuses. L'hostilité est permanente entre la ville arabe et la colonie juive de Kiryat Arba, ainsi qu'avec l'implantation directe de quelques centaines de colons dans la ville arabe. Les mouvements juifs radicaux comme le Karch sont particulièrement présents, mélangeant le fanatisme religieux et le nationalisme. Les violences permanentes et l'insécurité suscitées par l'accord d'Oslo créent un climat particulièrement dangereux, sous-estimé par l'armée israélienne qui ne voit que le danger d'attentats du Hamas. À l'aube du 25 février 1994, un militant juif du CAR, d'origine américaine, habitant Kiryat Arba, le docteur Baruch Goldstein, pénètre dans le tombeau des patriarches. Les gardes israéliens l'ont laissé entrer avec son armement parce qu'ils l'ont pris pour un officier en service. De toute façon, ils sont là pour contrôler les fidèles musulmans et non les fidèles juifs. Goldstein ouvre le feu avec un fusil automatique sur les musulmans venus faire la prière de l'aube en ce temps de Ramadan. Il tue 29 personnes et en blesse environ 125 jusqu'au moment où il est maîtrisé et battu à mort par les survivants. L'affaire se déroule dans la plus grande confusion. Les fidèles musulmans croient voir plusieurs assaillants et accusent aussi les gardes israéliens d'avoir tiré sur la foule. Les habitants d'Hébron sortent dans la ville et s'en prennent à l'armée israélienne, puis la violence s'étend à l'ensemble des territoires occupés. 19 Palestiniens sont tués en 2 jours, ainsi que plusieurs centaines de blessés. Les territoires occupés sont de nouveau soumis au bouclage et on procède à plusieurs centaines d'arrestations. Rabin réunit d'urgence le gouvernement israélien et assure que, je cite, « l'acte de folie d'un psychopathe n'empêchera pas la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens et ne stoppera pas le processus de paix ». Fin de citation. Les autorités israéliennes politiques et religieuses condamnent les actes d'un déséquilibré, mais chez les colons, on lui trouve des excuses. Le maire de Kiryat Arba affirme que Goldstein a craqué nerveusement, je cite, nous savons que depuis plusieurs jours, il s'occupait bénévolement de juifs blessés par des jets de pierre et que cela le perturbait profondément. Nous savons aussi que depuis longtemps, il parlait de la nécessité de provoquer l'arrêt du processus de paix par tous les moyens. Fin de citation. Pour la frange la plus radicale, Goldstein devient un martyr et sa tombe un lieu de pèlerinage. L'OLP demande le désarmement des colons et une protection internationale des habitants des territoires occupés. Arafat appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le Hamas promet de venger les martyrs et l'opposition palestinienne met en cause tout aussi bien Rabin qu'Arafat. Bill Clinton invite l'OLP et Israël à se réunir aussitôt que possible à Washington pour une mise en place accélérée de la déclaration de principe. Arafat accepte d'abord, puis face aux protestations de l'ensemble des Palestiniens, il se rétracte et lit sa réponse à une décision du Conseil de sécurité assurant la protection internationale. Le 26 février, les Arabes israéliens se joignent aux manifestations de protestation. Le 27 février, le gouvernement israélien met hors la loi le mouvement CAR et ordonne que certains de ses militants soient désarmés. On annonce aussi la création d'une commission d'enquête. Mais il n'est pas question de sanctions collectives contre les colons, ni même de destruction de la maison de Goldstein, ce que l'on aurait fait s'il s'agit d'un Arabe. Contrairement à l'avis de Peres, Rabin refuse catégoriquement de démanteler l'implantation juive à l'intérieur de Hébron, alors que l'opinion publique dans ce contexte l'aurait certainement accepté. Il s'en tient à sa ligne stratégique de non-démantèlement des colonies durant toute la période de la Térim, afin, dit-il, d'avoir la meilleure position pour la négociation finale. Cette constance ne diminuera en rien l'hostilité militante que lui portent les mouvements de colonisation, alors qu'elle engendrera une perte de confiance de la part de ses partenaires palestiniens. De même, il n'est pas question de désarmer les colons qui doivent avoir les moyens d'assurer leur protection. Rabin explique qu'Israël n'est pas un État totalitaire. Les citoyens israéliens ont des droits qui doivent être respectés et qui sont garantis par les tribunaux. Il ne voit pas la contradiction entre la nature démocratique de l'État d'Israël et le régime d'exception auquel est soumise la population arabe. L'enjeu juridique est de savoir si la législation antiterroriste héritée du mandat britannique est applicable à la population juive. En droit, rien n'interdit, mais si Rabin crée un précédent, elle pourrait ensuite être utilisée par la droite israélienne contre la gauche. C'est pour des raisons de politique intérieure que cette législation n'est pas impliqué. Je rappelle quand, dans les premières décennies de l'État d'Israël, Begin, qui avait peur que la gauche utilise la législation antiterroriste héritée du mandat, et qu'il avait qualifié jadis de nazi quand elle s'appliquait au mouvement juif radical, soit aboli par l'État d'Israël parce qu'il avait peur que la gauche l'utilise pour interdire la droite radicale en Israël. Mais en revanche, quand il est accédé au pouvoir, il a toujours utilisé cette législation, ces ordonnances d'exception, contre les territoires arabes. Alors ensuite, il y a aussi des discussions juridiques très complexes pour savoir si dans les territoires en Cisjordanie, si la législation antiterroriste britannique a été annulée ou non par la législation jordanienne. Les Israéliens prétendent que non, tandis que les Jordaniens, qui n'ont jamais utilisé en référence la législation héritée du mandat, considèrent qu'elle avait été annulée par le régime jordanien. Mais pour les Israéliens, la législation jordanienne n'existe pas puisque l'autorité jordanienne était illégale en Cisjordanie dans le raisonnement juridique israélien. Bon, enfin, vous savez, on peut faire dire tout ce qu'on veut au droit, et c'est le propre des juristes. Je vais encore me brouiller avec le juriste du Quai d'Orsay, qui m'a déjà fait une remarque il y a 2 ans sur mes attaques contre les juristes dans ce cours. Je reviens aux affaires, si j'ose dire. De plus, Rabin veut élargir sa majorité parlementaire au parti de droite Sommet de l'ancien général Rafael Eitan, l'homme de l'invasion du Liban en 1982, et qui est contre l'accord du 13 septembre et favorable à l'intensification de la colonisation. Le Meretz, donc la gauche pacifiste, et les députés arabes s'y opposent, menaçant de quitter la majorité au cas où Rabin, soutenu par Peres, passerait outre. Donc, de fait, si le premier ministre israélien dans ses discours s'en prend avec véhémence aux fanatiques qui osent porter au nu Goldstein, il ne prend contre eux que des sanctions symboliques totalement ineffectives. La Knesset vote par 93 voix sur 120 une motion condamnant le massacre. En mesure de conciliation, 1 000 000 de prisonniers palestiniens sont libérés, mais cela correspond à une décision prévue de longue date pour la fin du Ramadan. On promet des compensations financières aux familles des victimes tuées dans la mosquée, et pas aux autres victimes, celles qui n'ont pas été tuées dans la mosquée. Mais elles seront fixées en fonction du niveau de vie arabe, donc nettement inférieur à celle que l'on propose aux victimes juives. Alors évidemment, ces événements ont suspendu les négociations bilatérales de Washington avec la Syrie et la Jordanie. L'OLP exige que l'on ouvre le dossier des colonies et celui d'une protection internationale de la population palestinienne, ce que le gouvernement Rabin veut à tout prix éviter. Les Palestiniens ont beau jeu de montrer que l'on n'accorde pas la même importance à la sécurité des Israéliens à celle des Palestiniens. En même temps, l'affaiblissement de la position d'Arafat dans l'opinion publique palestinienne et arabe limite sa marge d'action. La violence s'étend sur plusieurs jours avec de nouvelles victimes palestiniennes. Un colon juif est tué par des militaires israéliens qui l'ont pris pour un terroriste arabe. Ça, c'est pas de chance. L'essentiel des territoires occupés se trouve sous couvre-feu. Le 7 mars, le Hamas, dans un communiqué, donne aux colons juifs de l'ensemble des territoires occupés un délai expirant le 15 mars pour évacuer les implantations, faute de quoi il lancerait une riposte armée au massacre d'Hébron. La commission d'enquête, présidée par le président de la Cour suprême, Meir Shamgar, et indépendante du pouvoir politique, tient un certain nombre d'audiences publiques retransmises en direct par les médias israéliens. Un juge arabe intelligent et incisif fait une forte impression sur l'audience israélienne. Outre les multiples déficiences de la protection du lieu saint, les audiences révèlent l'ampleur de la connivence entre l'armée et les colons. Il est ainsi interdit de tirer sur un colon qui a ouvert les feux sur les Arabes parce qu'il est peut-être en situation d'autodéfense. on ne peut le désarmer parce que ça leur reviendrait à mettre leur vie, enfin la vie des colons, en danger. Les colons sont donc autorisés à entrer armés dans le sanctuaire. Lors de sa comparution, Ehud Barak, toujours chef d'état-major de l'armée israélienne, affirme que cette tuerie était totalement imprévisible. Je cite. « Nous avons pris certaines mesures, mais nous ne pensions pas qu'un tel crime pouvait se produire. Nous nous attendions à ce que les colons crèvent des pneus, cassent des pare-brises, se livrent à des actes de vandalisme, mais nous ne pressentions pas un tel acte. » Fin de citation. Face au juge arabe, il prétend qu'à aucun moment, depuis le début de l'intifada, on a vu un civil israélien tirer pour tuer. Le juge lui répond en brandissant un rapport de l'Association israélienne des droits de l'homme, Betzelem, très noble institution, enfin j'ai une grande admiration pour Betzelem, qui vous donne des statistiques très précises de tout ce qui se passe dans les territoires occupés. Alors, c'est en anglais, mais je vous encourage à consulter régulièrement le site de Betzelem, qui est vraiment un site admirable. Donc, Betzelem qui donne plus de 50 cas de Palestiniens tués par des colons. Le général reste imperturbable et affirme qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le comportement de l'armée israélienne est exemplaire quand on la compare, par exemple, à celui de l'armée française en Algérie. Barak qui ajoute qu'il connaît bien la question puisqu'il a effectué à l'époque un stage dans l'armée française en Algérie, donc il connaissait très bien les pratiques des Français durant la période, ce qui est absolument incontestable vu le comportement de l'armée française en Algérie, mais qui ne revient pas à résoudre le problème des territoires occupés palestiniens. La comparution de Barak est un véritable aveu des pratiques de l'armée israélienne. Autant elle sévit durement contre les violences palestiniennes usant par exemple des armes à feu contre les jets de pierre, autant elle laisse faire le vandalisme des colons. Il lui est impossible de penser les colons comme des ennemis, sinon ce serait entrer dans une logique inexorable de guerre civile. Ce sont même pour elle des auxiliaires pour pouvoir contrôler les territoires aux méthodes parfois regrettables, tandis que les Palestiniens sont des suspects permanents de terrorisme. Il lui faut contrôler les Palestiniens et protéger les colons. La commission Shamgar déposera ses conclusions à la fin de juin 1994. Le massacre d'Hébron est du fait d'un homme seul. La commission n'émet aucune recommandation pénale, ni le moindre blâme officiel, ni la plus petite mise en cause des responsabilités politiques et militaires, seulement des recommandations techniques sur la protection du lieu saint. Ainsi, les visiteurs juifs devront déposer leurs armes à l'entrée. On a une réponse qui se veut technique à une question essentiellement politique et le gouvernement entérinera sans difficulté ses recommandations. Durant la crise, l'administration Clinton s'est totalement alignée sur les positions du gouvernement Rabin, mais s'inquiète du risque d'interruption du processus de paix. Il lui faut faire pression sur la partie palestinienne considérée presque comme fautive et trouver des mesures qui lui permettront de ne pas trop perdre la face. On retarde ainsi le vote d'une résolution du Conseil de sécurité. Comme Ross s'en rend compte en se rendant à Tunis, il faut à Arafat une forte résolution, alors que les groupes de pression pro-israéliens aux États-Unis demandent un veto américain. Rabin est d'accord pour une forte résolution si elle permet la reprise des négociations, mais refuse d'agir pour mettre fin à l'action des groupes pro-israéliens à Washington. À dire vrai, le gouvernement travailliste se plaint de l'activisme des institutions juives américaines qui paraissent plus proches du Likoud que des partis travaillistes. Ça, quand on parle des groupes de pression pro-israéliens aux États-Unis, il faut faire toute une série de distinctions, sinon on embrouille la question. Pour simplifier les choses, on peut dire que les principales organisations de groupes de pression pro-israéliens dans l'AIPAC sont depuis les années 70 beaucoup plus proches de la droite israélienne que du parti travailliste, ce qui ne correspond pas à l'opinion moyenne des juifs américains qui, elle, est plus proche du Parti travailliste que de la droite israélienne. Ça vous explique, c'est encore valable aujourd'hui, ça vous explique pourquoi, par exemple, l'AIPAC est très proche des partis républicains, alors que l'électorat juif vote pour le Parti démocrate. Et on l'a encore vu aux élections américaines du mois dernier. Donc, il faut faire cette distinction essentielle. Puisque pratiquement, indépendamment de la question proprement du sioniste, les bases idéologiques du Likoud et celles du Parti républicain sont très proches en matière de dérégulation de l'économie, de libre entreprise, de fin de l'État-providence, etc. Alors, pour faire pression sur Arafat, Bill Clinton appelle Assad et les deux dirigeants tombent d'accord sur le fait que la Syrie reprendrait les négociations si les États-Unis n'opposent pas leur veto à la résolution du Conseil de sécurité. Et la Jordanie suit le mouvement. Arafat perd ainsi l'atout de la solidarité arabe, puisque la Syrie et la Jordanie passent outre. Parallèlement, les Israéliens font savoir qu'ils pourraient accepter la présence temporaire d'observateurs internationaux non armés. Encore faut-il en négocier la forme. On peut ainsi faire passer au vote au Conseil de sécurité le 18 mars 1994 la résolution 904. Je suis désolé, je vous inflige pratiquement toutes les résolutions du Conseil de sécurité, mais c'est une question de principe pour moi, même si elles sont très largement ineffectives. Elles constituent quand même la base d'un droit international. Les États-Unis ont utilisé un artifice de procédure permettant le vote paragraphe par paragraphe, ce qui leur permet de s'abstenir sur certains points cruciaux. Deux sites. Le Conseil de sécurité, profondément ému par l'effroyable massacre commis contre des fidèles palestiniens en prière dans la mosquée d'Abraham à Hébron le 25 février 1994 pendant le mois sacré du Ramadan. Gravement préoccupé par les victimes palestiniennes dans le territoire palestinien occupé, conséquence de ce massacre qui met en évidence la nécessité d'apporter une protection et sécurité au peuple palestinien. Et là, les États-Unis se sont abstenus sur le paragraphe à cause de l'appellation « territoire palestinien occupé » au lieu de « territoire occupé » utilisé communément par les institutions internationales. Je reprends. Résolu à surmonter les effets négatifs du massacre sur le processus de paix en cours, prenant note avec satisfaction des efforts déployés pour garantir la poursuite normale du processus de paix et invitant toutes les parties concernées à poursuivre leurs efforts à cette fin, prenant note de la condamnation de ce massacre par l'ensemble de la communauté internationale, réaffirmant ces résolutions pertinentes qui affirment que la 4e Convention de Genève du 12 août 1949 est applicable au territoire occupé par Israël en juin 1967, y compris Jérusalem, ainsi que les responsabilités d'Israël à cet égard. Alors là, il y a une nouvelle abstention américaine en raison de la référence à Jérusalem comme territoire occupé. De surcroît, les deux paragraphes litigieux se trouvent être dans le préambule et donc sont considérés comme moins importants. Sinon, il y aurait eu veto américain. Suite de la résolution. 1. Condamne énergiquement le massacre d'Hébron et ses suites qui ont coûté la vie à plus de 50 civils palestiniens et fait plusieurs centaines de blessés. 2. Demande à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et appliquer des mesures y compris entre autres la confiscation des armes afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens. 3. Demande que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans tous les territoires occupés, y compris entre autres une présence internationale ou étrangère temporaire qui a été prévue par la déclaration de principe et ce, dans le cadre du processus de paix en cours. Et là, vous voyez, on dit territoire occupé et non pas territoire palestinien occupé. 4. Pris les coparins du processus de paix, les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, de poursuivre leurs efforts en vue de donner vigueur à ce processus et d'apporter le soutien nécessaire à l'application des mesures susmentionnées. 5. Réaffirme son appui au processus de paix en cours et demande que soit appliquée sans délai la déclaration de principe. Les Palestiniens se déclarent outrés de l'attitude américaine, en particulier du fait de l'abstention sur le paragraphe concernant Jérusalem. une déclaration de Clinton disant « Je considère Jérusalem unifiée comme la capitale d'Israël », faite devant des membres de la conférence des présidents et des organisations juives américaines, augmente leur colère. Le roi Hussein critique vivement les Palestiniens qui, en exigeant que Jérusalem soit mentionnée dans la résolution, ont contraint les Américains à s'abstenir. Je cite, « Il aurait été préférable de ne pas mentionner Jérusalem afin d'éviter l'abstention des États-Unis et la nécessité de réclamer dorénavant à Washington des garanties quant à sa position sur la ville sainte. » Fin de citation. La violence est permanente dans les territoires occupés dès que les cessez-le-feu sont levés. Le 28 mars, 6 militants du Fatah en armes sont tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, par une unité israélienne en civil qui affirme avoir agi en légitime défense. Selon le ministre du Logement, Ben Eliezer, quand des soldats en mission voient des Palestiniens entrailler en armes, ils n'ont pas le temps de vérifier s'il s'agit de terroristes recherchés, de militants du Fatah ou d'activistes islamistes. La seule chose à faire est de charger et d'ouvrir le feu. Fin de citation. Les victimes sont des hommes de Darlan chargés de préparer le retour de l'OLP, mais le chef palestinien maintient son dialogue avec Shaak, son homologue. Il reste à régler la question de la présence internationale ou étrangère temporaire. C'est l'objet de discussions tendues à Tunis entre Palestiniens et Israéliens. Ces derniers proposent le déploiement à Hébron d'une force de police palestinienne placée sous responsabilité israélienne, ce qui est irrécevable pour la partie palestinienne. Le 31 mars 1994, on arrive à un accord prévoyant le déploiement temporaire de 160 observateurs, 90 Norvégiens, 35 Danois et 35 Italiens, chargés de promouvoir la stabilité et de restaurer la vie normale sans aucune fonction militaire ou policière. Le mandat sera renouvelable tous les 3 mois par consentement mutuel. Le coût de la mission, dénommée Temporary International Presence in the City of Hebron, TIPH, c'est-à-dire Présence internationale temporaire à Hébron, sera prise en charge par les pays donateurs. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet de la TIPH. Donc vous tapez TIPH sur Google et vous trouverez les informations nécessaires sur la TIPH. Puisque comme on le verra, elle sera suspendue puis recréée quelque temps après. Elle existe toujours officiellement. Et donc, vous avez sur l'Internet les rapports de la TIPH, ce qui montre encore une fois combien le travail aujourd'hui du chercheur se fait beaucoup sur l'Internet, puisqu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu faire un travail de ce genre. Enfin, on aurait travaillé en bibliothèque pour trouver dans un fonds quelconque les rapports de la TIPH, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Le but explicite du TIPH est de contribuer à la sécurité des Palestiniens. Je cite, les tâches du personnel de la TIPH seront A. de susciter par leur présence un sentiment de sécurité parmi les Palestiniens de Hébron. B. d'aider à promouvoir la stabilité et un environnement approprié de nature à favoriser le bien-être des Palestiniens de Hébron et leur développement économique. C. de contrôler les efforts visant à rétablir la sécurité des Palestiniens et les événements qui pourrait l'affecter, ainsi que le retour à la vie normale dans la ville de Hébron. Fin de citation. Mais la seule action est de transmettre des rapports aux parties israéliennes et palestiniennes et au comité de liaison ad hoc des pays donateurs. Arafat a dû céder sur l'essentiel de ses demandes, ce qu'il fait apparaître comme un interlocuteur sérieux aux yeux des négociateurs israéliens. La droite israélienne hurle à l'abandon de souveraineté. Pour Netanyahou, en renonçant à notre souveraineté sur cette terre, Rabin trahit le sionisme, le judaïsme et Israël. Fin de citation. De l'avis des Palestiniens, c'est un succès diplomatique pour l'OLP, mais cela ne donnera aucune protection réelle aux habitants de Hébron. On peut maintenant reprendre les discussions sur l'accord Gaza-Jéricho. Pendant que les discussions sur Gaza-Jéricho reprennent au Caire, les Israéliens font un certain nombre de gestes. Ils autorisent le retour de plusieurs dizaines de cadres palestiniens expulsés dans les années 1980. La plupart d'entre eux sont devenus des cadres de l'ALP chargés du suivi des affaires dans les territoires occupés. À leur retour au pont Allenby, ils sont soumis à des tracasseries particulièrement tatillonnes de la part de l'armée israélienne. Ce retour au pays ne donne lieu à aucun débordement aux liesses populaires, ce qui traduit le désenchantement ambiant. Le conseil municipal de Hébron, dissous en 1983, est rétabli. Une excellente caricature de Plantu, datant de l'époque. Un contingent de 150 policiers venus de l'extérieur pourra s'installer dans la bande de Gaza et à Jéricho, mais les Israéliens s'opposent à ce que ce soit une entrée triomphante. Ils doivent arriver de façon discrète. Les préparatifs d'évacuation d'une partie de la bande de Gaza se déroulent ostensiblement, mais tout est fait pour que ce soit clairement un redéploiement et non une retraite. Le 6 avril, un attentat à la voiture suicide fait 7 victimes israéliennes. Il est revendiqué comme un acte de revanche du Hamas à l'occasion du 40e jour après le massacre de Hébron. Le 40e au Proche-Orient, c'est le jour où on représente les condoléances à la famille. Donc, quand il y a un décès, vous faites une condoléance une première fois, et puis le 40e jour. C'est ce qu'on appelle un 40e là-bas. Le but est de porter des coups douloureux aux Israéliens. C'est le 7e attentat suicide depuis le 13 septembre. Le communiqué du Hamas appelle personnellement Yasser Arafat à cesser les pourparlers avec Israël pendant un an, car nos unités vont obliger les dirigeants israéliens à évacuer leurs soldats et les colons de Gaza, de Jéricho et de Hébron, sans condition, comme première étape avant la libération de toute la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La stratégie du Hamas est claire. Monopoliser à son profit le nationalisme palestinien en disqualifiant complètement Arafat el-Fatah. Tout en présentant parfois sa ligne comme cherchant à créer un rapport de force plus favorable aux Palestiniens, permettant ainsi d'obtenir plus, le but est bien d'éliminer le compétiteur politique, le Fatah, obstacle à la constitution d'une société politique purement islamique. La lutte contre Israël et celle contre le Fatah sont indissociables, même si on ne les met pas publiquement sur le même pied. Symétriquement, d'ailleurs, pour Israël comme pour Arafat, le processus de paix a aussi pour but l'élimination du Hamas comme facteur politique. Le lendemain, deux autres attentats font un mort et plusieurs blessés. Donc ça, c'est l'attentat des coups douloureux. Ça, c'est l'attentat suivant. Deux autres attentats font un mort et plusieurs blessés israéliens. L'armée israélienne isole totalement les territoires occupés du reste du monde. Le gouvernement Rabin décide de faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour remplacer les ouvriers palestiniens dont le nombre sera limité. Pour Netanyahou, je cite, « Cette tuerie est la conséquence directe de la politique de folie suivie par ce gouvernement. Nous exigeons l'arrêt immédiat des négociations avec les Arabes, la fin des libérations de terroristes palestiniens et la mise en place d'une commission d'enquête sur les circonstances de ce massacre. » Le gouvernement Rabin marque qu'il n'y a pas d'alternative à poursuivre, voire accélérer les négociations. Le 12 avril, on se met d'accord au Caire sur le déploiement progressif de 9000 policiers palestiniens à Gaza et Jéricho et sur la libération de 5000 prisonniers palestiniens n'appartenant pas au Hamas. Le 13 avril, qui était la date butoir du redéploiement, un nouvel attentat est revendiqué par le Hamas dans une gare routière israélienne faisant 6 morts et 21 blessés. Arafat, qui parle à Strasbourg devant le Conseil de l'Europe, déplore ces attaques qui ne visent que des innocents israéliens ou palestiniens. Toutes ces forces extrémistes des deux côtés, israéliens et palestiniens, se sont lancées dans une espèce d'escalade impossible à arrêter. Il fait porter la responsabilité de la situation sur le gouvernement Rabin. Je cite. Il a suivi sa politique de massacre, de détention, de couvre-feu et d'isolement des villes, notamment Jérusalem, et a continué à encourager les colons fanatiques qui commettent des meurtres et des agressions avec la connivence de certaines unités de l'armée israélienne. Fin de citation. Rabin laisse entendre pour la première fois qu'il est prêt à faire évacuer des implantations, mais dans le cadre de l'accord définitif. Rabin exige aussi de la Jordanie qu'elle mette fin aux activités du Hamas sur son territoire, car les dernières opérations ont été revendiquées et expliquées à partir de Amman. Je cite. « Il est intolérable que le Hamas, cet ennemi du processus de paix, dispose en Jordanie d'une espèce de sanctuaire. Nous considérons avec la plus grande gravité le fait que la Jordanie et son gouvernement n'aient rien fait pour empêcher le Hamas d'avoir des mains libres en Jordanie et de revendiquer les crimes. Nous ne sommes pas prêts à passer l'éponge et à accepter que cette situation se prolonge. » La Jordanie trouve ses critiques injustifiées. Il n'y a qu'une représentation politique du Hamas dans le royaume. En fait, le Hamas bénéficie de la protection active des frères musulmans jordaniens qui sont proches du pouvoir. En tout cas, il y a toujours eu un jeu complexe en Jordanie entre la monarchie et les frères musulmans. La Jordanie étant le seul pays de la région qui n'ait jamais interdit les frères musulmans. Et sur cette base-là, la monarchie avait utilisé les frères musulmans contre la gauche palestinienne et arabe en Jordanie. Mais ensuite, quand il y a un face-à-face avec les frères musulmans, la monarchie travaille à les neutraliser. De ce fait, les autorités jordaniennes ont passé un marché avec l'organisation islamiste. Elle a reçu l'autorisation officieuse d'installer sa direction extérieure contre l'engagement de ne pas entreprendre d'actions armées à partir des territoires jordaniens. Ainsi, la monarchie se prémunit du risque de voir se répéter la situation de 1967-70 où les Palestiniens avaient failli faire effondrer l'État jordanien et en même temps on dispose d'un moyen de pression supplémentaire sur l'OLP avec laquelle les relations restent mauvaises. Maintenant, la monarchie trouve que les Hamas est allé trop loin en revendiquant les attentats à partir de la capitale jordanienne. Donc on exerce sur le mouvement un certain nombre de pressions policières pour faire passer le message. En particulier, on expulse des militants du Hamas qui n'ont pas la nationalité jordanienne. Par contre, ceux qui ont la nationalité jordanienne, on les laisse tranquilles. Dans les territoires occupés, les Israéliens procèdent à plusieurs centaines d'arrestations de suspects d'appartenir au Hamas. Daman, un porte-parole de l'organisation, laisse entendre qu'elle pourrait accepter une trêve avec Israël en cas d'évacuation de la totalité des territoires occupés, y compris Jérusalem. Le 22 avril, le Fatah et le Hamas passent un accord pour mettre fin à leur affrontement au règlement de compte dans les territoires occupés. Il proclame une amnistie pour les Palestiniens accusés de collaborer avec Israël s'ils se rendent dans un délai de un mois. On n'évoque pas la question des attaques anti-israéliennes, ce qui suscite l'inquiétude des responsables israéliens qui craignent un partage des rôles entre les deux mouvements palestiniens. Au Liban Sud, une attaque de Hezbollah, le 14 avril, fait 6 morts dans les rangs de la LS. En représailles, la milice bombarde la ville de Saïda, faisant 4 tués, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. En réplique, la résistance islamique envoie une salve de Katyusha sur la Galilée israélienne sans faire de victimes. Les autorités israéliennes réprimandent la LS pour l'erreur de tir que constituent les bombardements de Saïda, reconnaissant implicitement la syntaxe des rapports imposés par le Hezbollah. Pour Uri Lubrani, donc le coordinateur israélien pour le Liban, je cite, « L'ALS reste notre fer de lance au Liban Sud et continue d'agir comme il se doit en ce qui concerne la protection de notre frontière nord. La coopération entre l'ALS et l'armée israélienne continuera. L'ALS aurait voulu être plus active pour réprimer des actions qui sont dirigées contre elle. Parfois, elle ne peut se maîtriser et réagit en tirant comme ce fut le cas vendredi contre Saïda. » Voilà l'erreur. Rabin continue d'exiger l'intégration de la LS dans les forces de sécurité libanaises comme condition de l'évacuation du Liban Sud. Le 20 avril, 3 civils libanais sont tués par des bombardements de l'artillerie israélienne. Au Liban toujours, les forces libanaises sont interdites, donc l'ancienne organisation des forces libanaises, et leur chef, Samir Jaja, est arrêté. Il est accusé de divers crimes, dont un certain nombre sont probablement vrais, dont la collaboration avec Israël. La principale force politique chrétienne indépendante se trouve ainsi éliminée. Le grand défaut de la déclaration de principe est son ambiguïté sur un grand nombre de points, ce qui en permet des lectures bien différentes. Les négociations du Caire sont condamnées, au contraire, à préciser tous les détails qui, outre leur aspect matériel, comportent une importante dimension symbolique concernant les questions de souveraineté. Des progrès considérables ont été achevés en dépit de l'atmosphère troublée du mois d'avril 1994, mais chaque dossier donne lieu à d'âpres confrontations. La diplomatie américaine est décidée à intervenir pour créer une dynamique décisive. À la fin avril, Christopher et son équipe entament une nouvelle tournée au Moyen-Orient. À leur premier passage au Caire, le 28 avril, un sommet Arafat, Moubarak, Peres, Christopher est réuni. Le président égyptien annonce que la signature de l'accord aura lieu le 4 mai. Un diplomate américain est laissé sur place pour contribuer à l'avancement des travaux. Il n'est pas question d'accepter un nouveau retard dans la conclusion de l'accord. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord ? Je vous laisse le suspense absolu pour la pause. Et nous reprenons dans 5 minutes environ.